Laudetur Jesus Christus.
Un nouveau réveil difficile ce matin à Bagdad. Hier soir, un attentat kamikaze a visé un marché bondé de la capitale irakienne. De nombreuses femmes et enfants parmi les victimes. Nous retrouverons notre correspondante sur place. L'Afghanistan aussi visé par des violences ce matin alors que débute la fête de l'Aïd. Des roquettes ont visé le palais présidentiel tandis que la Turquie fait part de sa volonté de discuter avec les talibans. Dans ce journal également, 450 sans-papiers en grève de la faim à Bruxelles. Depuis mai, ils réclament leur régularisation. Puis nous irons à Haïti, où le nouveau gouvernement doit être annoncé d'ici peu. Enfin, dans notre dossier, direction l'Afrique du Sud, un calme précaire est revenu après des manifestations dans lesquelles sont mortes 250 personnes. Comment la situation a-t-elle pu autant dégénérer ? Analyse à suivre.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Une nouvelle fois, la capitale irakienne visée par un attentat revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Un attentat kamikaze dans un marché populaire du quartier chiite de Sadar City. Au moins 30 personnes sont mortes, 35 blessées. Le marché était bondé. De nombreuses personnes se pressaient pour faire leur dernière course avant la fête de l'Aïd. À Bagdad, nous retrouvons Anne-Sophie Lemouf.
Parmi les victimes, près de la moitié sont des femmes et des enfants. Des gens pauvres venus sous une chaleur de plomb en pleine résurgence de la Covid-19 faire leur course pour célébrer la fête du sacrifice qui a commencé ce mardi. Un carnage dans ce quartier emblématique, bastion des partisans du très influent chef religieux chiite, Moqtada al-Sadr. Opposé à la présence des troupes américaines en Irak, distant de Téhéran, le nationaliste, soutenu par plusieurs millions de fidèles adhérés au combat, a déclaré boycotter les élections législatives d'octobre prochain, après avoir dissolu cette semaine son parti Fayyroun, grand vainqueur des élections de 2018. La raison est l'incapacité des autorités à endiguer la corruption, responsable de nombreuses catastrophes, notamment sanitaires en Irak. Cet attentat vise incontestablement à semer le chaos à l'approche des législatives. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf pour Radio Vatican.
L'Afghanistan également touché par des violences tandis que débute la grande fête musulmane de l'Aïd. Plusieurs roquettes ont explosé ce matin vers le palais présidentiel à Kaboul, d'où le président doit s'exprimer en direct à la télévision pour la fête du sacrifice. Hier, une quinzaine d'ambassades des étrangères en Afghanistan ont uni leur voix pour demander aux talibans de cesser leur offensive après deux jours de pourparlers infructueux à Doha. C'est dans ce contexte que la Turquie, qui négocie avec les États-Unis la sécurisation de l'aéroport de Kaboul après le retrait des forces internationales d'Afghanistan, entend mener des discussions avec les talibans qui s'opposent à cette mesure. L'annonce a été faite hier par le président turc Recep Tayyip Erdogan. La Turquie propose les services de son armée pour assurer cette mission à l'aéroport de Kaboul et cela suscite des inquiétudes dans le pays. À Istanbul, les précisions d'Anne Andlauer.
Interrogé récemment sur les discussions avec les États-Unis au sujet de la sécurisation de l'aéroport de Kaboul, Recep Tayyip Erdogan semblait confiant. Le président turc a décrit son pays comme prêt à remplir sa mission de la meilleure des façons. Malgré ce discours rassurant, de nombreux experts turcs, dont d'anciens diplomates et d'anciens militaires, expriment leurs inquiétudes qu'on peut résumer en une question. Pourquoi la Turquie propose-t-elle d'engager ses soldats dans une mission si risquée au moment où les autres membres de l'OTAN, États-Unis en tête, quittent l'Afghanistan ? L'armée turque jouit certes d'une longue expérience dans ce pays, notamment dans la protection de l'aéroport international de Kaboul, mais les talibans ont fait savoir qu'elle serait considérée comme une force d'occupation si elle maintenait ses troupes sur place. Des mises en garde que la Turquie minimise et relativise pour l'instant, disant donc vouloir négocier avec les talibans. En s'engageant en Afghanistan, Recep Tayyip Erdogan veut sans doute donner des gages au président américain Joe Biden et apparaître comme un allié fiable et volontaire au sein de l'Alliance Atlantique, dans une période où les relations turco-américaines et Turquie-OTAN sont mises à rude épreuve. À Istanbul, Anne Loire pour Radio Vatican.
Journée de deuil national ce mardi en Belgique après les inondations catastrophiques dans la région de Liège où 31 personnes sont mortes, 70 toujours disparues. À midi, une minute de silence sera effectuée dans tout le pays. Dimanche, le pape François avait exprimé sa solidarité aux habitants de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas touchés par les pluies diluviennes. Les détails sur notre site internet www.vaticannews.va. Depuis le 23 mai, un peu moins de 500 personnes sans papiers sont en grève de la faim en Belgique. Certaines de ces personnes qui réclament leur régularisation ont désormais aussi entamé une grève de la soif. Les ONG et les partis de gauche réclament que le gouvernement fédéral prenne enfin les choses en main après plus de 60 jours sans s'alimenter. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazet.
Ils sont désormais plus de 470 à poursuivre cette grève de la faim entamée depuis près de 2 mois, installée dans l'église du Béguinage au centre de Bruxelles et dans les réfectoires de 2 universités laïques. Pour l'essentiel, ils sont marocains ou algériens et sont en Belgique depuis des années pour certains, voire des décennies pour quelques-uns. Depuis vendredi, une trentaine d'entre eux a aussi décidé de cesser de boire. L'ONG Médecins du Monde, qui soutient le combat de ces sans-papiers, a sonné l'alarme ce dimanche. Elle avertit que les grévistes de la soif sont dans un état extrêmement critique et risquent désormais la mort après 2 mois sans alimentation. Le gouvernement fédéral a dépêché une quinzaine d'ambulances dans la nuit de dimanche à lundi, mais seul un petit nombre de sans-papiers a accepté une hospitalisation. Malgré l'appel des partis de gauche, le gouvernement maintient son refus d'une régularisation collective. Il continue à proposer un examen des dossiers au cas par cas. Plusieurs associations ont publié une lettre ouverte adressée au roi des Belges pour lui demander son soutien à la veille de la fête nationale du 21 juillet. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
La Croix-Rouge annonce rejoindre SOS Méditerranée à bord du navire de sauvetage Ocean Viking. La Croix-Rouge annonce notamment l'envoi d'un médecin et d'une sage-femme sur le navire humanitaire qui vient en aide aux personnes en détresse en mer. Au moins 1100 personnes sont mortes noyées en tentant de rejoindre l'Europe depuis le 1er janvier. C'est plus du double de l'année dernière. En RDC, les médecins durcissent leur mouvement de grève. Le service minimum sera réduit cette semaine, annonce les médecins qui ont débuté la grève le 12 juillet. Ils demandent le versement des salaires à plusieurs centaines de blouses blanches non payées depuis des années et plus de médecins pour le pays. On reste en RDC. Le parc national de la Salonga, le plus grand du pays, n'est plus en péril, annonce hier de l'UNESCO qui salue les efforts faits pour sa préservation, notamment pour sauver la population de singes bonobos. Créé en 1970, le parc de la Salonga est la plus grande réserve de forêt tropicale humide du continent africain. Direction maintenant Haïti. Aujourd'hui, un hommage est rendu au Panthéon National au président assassiné Jovenel Moïse en attendant les funérailles qui devraient avoir lieu vendredi. Après la stupeur engendrée par l'assassinat du 7 juillet, c'est maintenant l'attente. Haïti devrait connaître un nouveau gouvernement sous la baguette d'Ariel Henry, le premier ministre désigné quelques heures avant le meurtre du chef de l'État. Les précisions de Franz Emmanuel.
Une annonce attendue dans les toutes prochaines heures durant cette journée de mardi avec au moins une certitude. La présence de Claude Joseph au sein de ce nouveau gouvernement, celui qui il y a quelques jours occupait par intérim la fonction de Premier ministre, retrouvera son poste aux affaires étrangères. Ariel Henry, déjà rompu à ce niveau de responsabilité avec 2 premières expériences gouvernementales, aura donc la tâche de mettre sur pied une équipe consensuelle et inclusive avec pour mission première d'organiser les élections générales le plus vite possible en Haïti. Il s'agit quand même d'un accord rendu possible sous la pression de plusieurs pays afin de mettre un terme à un bras de fer très visible entre Ariel Henry, nommé à la tête de l'exécutif quelques heures avant le meurtre du président Moïse, et son prédécesseur Moutou Krino dès les premières heures de l'assassinat. Les deux hommes travailleront de concert déjà pour ce nouveau gouvernement et pour veiller au bon déroulement des funérailles nationales de Jovenel Moïse vendredi prochain. Après, il faudra s'occuper d'un pays complètement à la dérive, l'un des plus pauvres du monde. Fort de France, Franz Emmanuel, Radio Vatican.
Au Pérou, c'est finalement Pedro Castillo qui l'emporte. 1 mois et demi après la présidentielle, le jury national des élections annonce la victoire du candidat de la gauche. 51 ans, novice en politique, Pedro Castillo qui l'emporte de peu, 50,12% des voix contre 49,87% pour son adversaire Keiko Fujimori. Les révélations sur la campagne d'espionnage Pegasus continuent. Dans les numéros surveillés, des membres de la famille et des associés du président mexicain américain Andrés Manuel López Obrador, mis sur écoute en 2016 et 2017 par le gouvernement de l'époque, tandis que le président actuel était à la tête de l'opposition. Et puis toujours concernant la cybersécurité, Washington accuse la Chine d'avoir piraté le géant de l'informatique Microsoft en mars dernier. Des accusations sans fondement, selon Pékin. Commerce pillé, bagarres, voitures incendiées. L'Afrique du Sud a connu ces derniers jours de graves troubles. Une crise sociopolitique des plus sévères depuis l'avènement de la démocratie post-apartheid. Les premiers incidents ont éclaté il y a 10 jours, quand l'ancien président Jacob Zuma a été incarcéré pour outrage à la justice. Les émeutes ont notamment gagné la province du KwaZulu-Natal et de Johannesburg sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid. Le bilan total des violences s'élève désormais à au moins 215 morts et 2000 arrestations. La police a été déployée massivement et le calme, précaire toutefois, revient progressivement. Le président Cyril Ramaphosa s'est dit extrêmement préoccupé par la situation lors d'une visite à Durban ce vendredi. Il a également dénoncé des troubles planifiés et coordonnés. Comment en effet les manifestations initiales ont-elles pu ainsi dégénérer ? Les explications de Marianne Séverin, spécialiste de l'Afrique du Sud, à Sciences Po Bordeaux.
Cette violence, elle a été contrôlée, organisée par des partisans de Jacob Zuma et à l'intérieur même des agences de sécurité intérieure de l'Afrique du Sud. Quand on parle du State Capture, donc c'est tout le réseau de corruption et de blanchiment d'argent, mais ça a atteint les plus hauts lieux et notamment la police et les agences de sécurité intérieure du pays. Donc l'ex-président avait placé ses propres hommes qui sont encore en poste et tout a été fait à travers Facebook, les groupes WhatsApp. Et on a donné l'ordre à certains de commencer à faire en sorte de déstabiliser le pays et ça commence par la violence. Et c'est circonscrit d'abord dans la province du KwaZulu-Natal puisque c'est le fief de Jacob Zuma.
Les conditions économiques et sanitaires ont-elles aussi joué dans ce déchaînement de violence ?
Alors forcément, si vous avez, entre guillemets, des violences qui paraissent politiques, vous ordonnez à des gens d'aller sur le terrain, il y a des opportunistes et des gens qui vont aller vandaliser, voler les magasins. Donc vous avez tout un faisceau d'événements, d'indices qui ont donné cette situation. Il ne faut pas voir cette révolte comme seulement une révolte socio-économique. C'est beaucoup plus profond que ça, et puis ça montre aussi qu'il y a un problème au sein de l'ANC dans cette province.
Ce problème de l'ANC est-il seulement interne ou bien l'ANC finalement a échoué à répondre aux aspirations de la population ?
C'est interne parce que ça date finalement des élections internes au parti et je vais même jusqu'à remonter à 2007. Donc lorsque Jacob Zuma est arrivé à la tête de l'ANC et en 2018 lorsqu'il a été renvoyé de la présidence en Afrique du Sud. Donc vous avez l'impression que vous avez deux camps qui s'affrontent, le camp Cyril Ramaphosa et le camp Jacob Zuma. Et en même temps, ça dépasse forcément le cadre interne du parti et ça montre l'échec du parti majoritaire en ce qui concerne les politiques socio-économiques.
Quelles réformes le parti devrait-il mener pour réussir à calmer cette colère de la population ?
Il faut réformer la police, il faut réformer les agences de sécurité et surtout tout le tissu socio-économique du pays. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de pandémie et de crise économique et sociale et ces révoltes qui commencent à dépasser le KwaZulu-Natal, le Gauteng et qui vont jusque dans d'autres provinces vont finalement saper les efforts du gouvernement en matière économique. Et il faut aussi une réforme pour permettre aux gens de pouvoir travailler, avoir un travail décent. On part d'un problème socio-économique, on part d'un problème politique et tout s'entrechoque et vous avez ce genre de contexte.
Et au milieu de tout cela, est-ce que il y a quand même des signes de solidarité qui émergent ?
Alors, ce qui est admirable avec l'Afrique du Sud, c'est que la population est très solidaire et très résilient. Les gens descendent dans les rues pour nettoyer, vont aider les commerçants qui ont tout perdu et des commerçants qui n'ont pas d'assurance, donc vous imaginez ce qui va se passer. Vous avez des distributions de repas parce que maintenant on se retrouve avec une pénurie alimentaire. Dans tout ce chaos, vous voyez des gens qui se responsabilisent et en fait, ils ne protègent pas que leur pays, ils protègent la démocratie. Ces personnes-là ont cœur à garder leur fragile démocratie, à faire avancer les choses et ne comptent pas forcément sur le gouvernement.
Voilà, interrogé par Adélaïde Patrignani, Marianne Séverin, spécialiste de l'Afrique du Sud à Sciences Po Bordeaux, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure, à 13h. En attendant, je vous souhaite une très belle journée.